Salut Daniel, bon c'est Alain de Nice, écoute je viens d'entendre un truc, c'est bon là c'est trop bon. Maintenant à propos de Jean-Marie Messier, maintenant les chefs d'entreprise, ils sont poursuivis en tant que personne morale, dit personne morale. Ah, j'ai trouvé ça trop bon, là il fallait que je te le dise Romain, j'ai trouvé ça trop bon, en tant que personne morale, ah, ça. Allez ciao Daniel, à bientôt.
Il est question de rémunérer les élèves maintenant. On met l'argent directement sur les adolescents d'entrée, quoi. Déjà indirectement par la pub et tout, c'était le cas déjà. Mais là, carrément, quoi. On va les rémunérer, mais collectivement, par un, quoi. Ben, si on veut appliquer le système capitaliste complètement, ben, je propose dès à présent qu'il faille accorder une prime aux prématurés, parce qu'ils ont le courage de naître plus tôt, ils sont présents plus tôt. Bon, ben, faut mettre une prime aux prématurés. Allez, bon courage à tous. Ciao.
Bonjour, Marie-Caroline de Versailles. Alors, il paraît que je serai dans la perversion et l'immoralité parce que je récompense mes enfants lorsqu'ils ont de bons résultats scolaires. Vous avez remarqué, hein, on entend depuis quelques jours de grandes voix indignées à propos de la cagnotte qui serait promise aux élèves de quartiers défavorisés s'ils n'avaient pas d'absence et des résultats. Mais alors nous serions depuis longtemps un certain nombre à être dans la perversion avec nos enfants. Les nôtres et ceux de nos amis qui ont toujours eu non seulement de l'argent de poche, mais aussi une récompense pour chaque bon résultat scolaire, pour chaque bon bulletin aussi. Par exemple, notre fils a eu son bac cette année et il était entendu qu'il partirait avec deux copains de famille aisée comme nous, c'est vrai, qui partiraient cet été à New York. Ça ne dépendait pas du tout de l'obtention du bac, parce que comme ils sont dans de très bons établissements privés, il était évident qu'ils l'auraient. Non, ça dépendait de la mention qu'ils décrocheraient. Et comme ils ont tous les trois décroché une bonne mention, ben, ils sont partis pour 3 semaines à New York et nous trouvons ça tout à fait normal, très stimulant même, de récompenser les résultats scolaires de nos enfants. Alors pourquoi les enfants de familles modestes, du fait de l'incapacité de leurs parents, ne seraient-ils pas récompensés par l'État ? Tu le demandes.
Bonjour, comme tous les premiers mardis de chaque mois, le café repère de La Réunion se tiendra à l'îlot à Saint-Louis à partir de 20h. Le débat portera sur la désinformation et le journalisme citoyen. Venez nombreux. Il y aura un voyage sur Mars à gagner en fusée très recyclée pour un plaisir plus durable. Allez, salut.
C'était un bien chouette moment vendredi après-midi, là, toutes ces chansons coquines. Et Daniel et les autres, je voudrais vous demander si vous pouvez me retrouver une petite chansonnette que j'avais beaucoup entendue dans les années 70. Et qui commence comme ça, dans les bois de meudon, les petites filles ont des petits trous, les garçons des petits bâtons, le tien, le mien, le nôtre, s'en vont chacun dans l'autre. Et mon petit garçon de 2 ans m'avait dit, maman, tu me rechantes la chanson des petites filles qui ont des roulettes? Voilà, alors je me souviens plus de la suite, donc les petites filles ont des petits trous, les garçons des petits bâtons. Donc je serais ravie d'avoir la chanson en entier si vous la connaissez. Bisous à tous.
Allô, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs. Un petit message pour le repère de Là-bas si j'y suis à Dijon. Le repère se tiendra mardi, comme tous les premiers mardis du mois, donc mardi 6 octobre, à partir de 20h. Voilà, rendez-vous à Dijon, 52 rue Jeannin, au Vieux-Léon. Mardi à 20h. Ciao, ciao.
Oui, bonjour les AMG, Daniel et toute l'équipe. Voilà, alors je suis chauffeur routier, je viens d'arriver dans la région de la Drôme, et en arrivant, j'ai cherché du boulot. Donc j'ai trouvé un poste de chauffeur, et mon boulot, c'est de rouler des bennes où il y a des déchets industriels. Donc aujourd'hui, je fais ma journée de boulot, tranquillement, voilà, j'ai fait mon travail, je roule les déchets, et au dernier tour, quand je passe en bascule, la dame, elle me dit, la dame qui nous pèse et tout, qui nous reçoit, elle me dit, on a un service à vous demander, votre chef est au courant, tout ça. Donc voilà, vous allez là, vous dételez votre remorque, et puis vous appelez l'autre qui est là-bas, il y a un gars qui est au courant, et il va vous guider. Bon, j'y vais, on ne m'explique pas plus que ça. Je fais ce qu'ils me disent de faire. J'arrive sur le site pour vider cette fameuse remorque. Qu'est-ce que je vois pas? 2 personnes habillées en blanc, avec des masques et tout. Donc là, j'ai compris ce qui se passait. Donc, c'était qu'il y avait dans cette fameuse benne des déchets radioactifs. Donc voilà, messieurs, dames, quand vous suivez des camions sur l'autoroute ou ailleurs, des gros camions, non seulement ils puent du pot d'échappement, mais en plus, mais en plus, parfois, ils transportent des déchets radioactifs. Merci pour tes émissions, Daniel, et à bientôt.
Nous donnerons l'alarme avec des cris d'oiseaux. Léo Ferré. Vous lirez cette phrase en arrivant sur Marseille, écrite sur le mur du théâtre Tourski. Eh bien voilà, nous donnons l'alarme. Le théâtre est à l'agonie et le ministre de la Culture n'entend pas. Richard Martin, directeur du théâtre Tourski, entre en résistance et entame aujourd'hui une grève de la faim.
Salut à toi l'Allemand, l'Autrichien, le Belge. Salut à toi le Bulgare, le Chyprien, le Danois, l'Espagnol. Salut à toi l'Estonien, le Finlandais, le Français. Salut à toi le Grec, le Hongrois et l'Irlandais qui a mal voté. Salut à toi l'Italien, le Lettonien, le Lituanien. Salut à toi le Luxembourgeois, le Maltais, le Hollandais. Salut à toi le Polonais, le Portugais, le Tchéquien. Salut à toi le Roumain, l'Anglais, le Slovaque. Salut à toi le Slovène et le Suédois. Putain, c'est vachement bien. On est tous des Européens. Allez, on en cause au repère des amis de la Bastille sud Metz. Mardi 6 octobre à 6h du soir. Et oui, chez nous, c'est le 6. Chaque 6 du mois à 6h. Allez, ciao.
Ah, Christian Estrosi, notre grand ministre de l'Industrie. Qu'est-ce qu'il a dit ce week-end à propos du référendum pour la Poste? Il a dit qu'il se croyait aux grandes heures de l'Union soviétique. Voilà. Eh bien écoutez, monsieur Estrosi, je vais vous parler de la Suisse, petit pays qui n'est pas tellement connu pour son régime bolchevique. Au-delà de 50 000 signatures des citoyens, un référendum est organisé. Voilà, c'est leur loi. Alors là, on a 2 millions de signatures. Donc il serait peut-être temps d'organiser un référendum sur l'avenir de la Poste, même s'il vous semble que c'est des méthodes soviétiques. Mais le peuple prend ces méthodes-là en opposition à votre régime franquiste, hein, voire chilien de Pinochet, et peut-être voire plus.
Eh ben dis donc, ça chauffe. Ça a chauffé. En tout cas, tout au cours du week-end dans le répondeur de la base, j'y suis beaucoup autour de ce thème quand même, de la votation. De la votation. 2 100 000 Françaises et Français se sont prononcés dans le cadre de cette votation contre la privatisation de la Poste. Mais, il y en aurait 31 700 qui se seraient prononcés pour la privatisation de la Poste. Aussi, cette émission s'adresse-t-elle aujourd'hui à ces 31 700 qui sont peut-être plus nombreux que cela d'ailleurs, et puis aussi aux 2 100 000 et à tous les autres qui souhaitent un référendum, un vrai référendum, comme ça a été promis dans la Constitution. Souvenez-vous, il y a eu une promesse quand même, et plus qu'une promesse, puisque quand c'est dans la Constitution, ce n'est plus une promesse. On va voir si ce référendum arrive à se réaliser. Après tout, on a connu d'autres référendums en France. Si, vous vous souvenez, mais si, le référendum sur la Constitution européenne, c'était un référendum. Alors, référendum pour la Poste. En tout cas, aujourd'hui, voilà des biscuits et du grain à moudre retrouvés dans les archives de la base, et j'y suis, parce que c'est pas la première fois que nous abordons ce sujet. Et notamment, l'an passé, il y a exactement un an, nous avions consacré 2 heures, entre autres, à ce sujet. Touche pas à ma Poste. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Julien à Villefranche de Lauragais. Ben, moi je vous appelle parce que si j'étais aux affaires, je ferais revoter la présidentielle jusqu'à ce que Sarko y soit pas élu. Ouais. Et même qu'après, on ferait preuve de pédagogie en expliquant aux gens qu'ils sont beaucoup plus heureux comme ça. Ouais. Sauf que là, ça serait vrai.
Bravo pour ces 3 émissions remarquables sur la justice. Ce qui nous a donné envie de prolonger la réflexion au repère de Limoges, qui aura lieu mercredi 7 octobre à partir de 18h30, toujours au Woodstock Boogie Bar, 18 avenue Mongeauvy. On y recevra Michel Gay, qui est avocate, et répondra à nos questions, en particulier concernant la disparition des juges d'instruction. Venez nombreux nous rejoindre pour en savoir plus sur cette justice de classe de plus en plus expéditive en ces temps dominés par le tout sécuritaire Et n'oubliez pas ce que disait Marat. La trop grande sécurité des peuples est toujours l'avant-coureur de leur servitude.
Salut Daniel, bonjour à toute l'équipe. Un petit message rapide pour annoncer à tous les AMG de l'Ardèche et de la Drôme que ce soir aura lieu au repère de Saint-Péret à l'hôtel Badet. Un rendez-vous avec un grand débat sur l'agriculture, de la production à la consommation. On a invité des producteurs locaux, des vendeurs, et j'espère qu'on sera nombreux en consommateurs pour débattre. Voilà, on vous attend à partir de 20h à l'hôtel Badet.
Bonjour, c'est Marie-France du Café Repère de Thouars. Alors je signale à tous les AMG de France et de Navarre que nous pouvons nous retrouver à 50 maximum ce soir à partir de 18h-18h30 chez Thomas au Café des Arts. 53 rue Saint-Médard, bien évidemment, c'est à Thouars.
Alors on a confié notre petit trésor aux seuls gens qui n'égarent jamais rien. Aux employés de cette administration que le monde entier nous envie. J'ai nommé les PTT.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Touche pas à ma poste.
Flight number 2, arriving from New York.
Christian Cozard, ancien directeur général délégué de la Poste.
Le monde a changé. Et le monde change. Si la Poste ne change pas, bah, quelque part, nous allons devenir un musée.
Danny Boone, comique, auteur du film Bienvenue chez les Ch'tis.
La Poste ! Mais la Poste n'est rien que la pub de la Poste !
Bougez avec la Poste !
Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la Poste, hein ! S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est à la Poste !
Parmi les critiques les plus fréquentes du public, c'est le temps d'attente au guichet qui arrive en premier. Fabien Chadeau et Antoine Armand.
Un bureau de poste à Arcachon, c'est comme partout ailleurs en France, il faut patienter. Patienter pour accéder au guichet.
Ça m'est déjà arrivé d'attendre trois quarts d'heure. Alors pour retirer deux recommandés que quelqu'un a eu la mauvaise idée de vous envoyer par recommandé, c'est franchement désagréable.
La Poste, rappelée à ses devoirs alors que l'entreprise devrait se transformer en société anonyme, début 2009.
À la Poste, c'est les spécialistes de la queue qui n'avance pas. C'est eux qui l'ont inventé, la queue qui n'avance pas, et après ils ont été copiés par tous les services publics. Et il y a une explication à ça. C'est qu'à la Poste, quand on regarde bien, sur 10 guichets, il y en a 1,5 d'ouvert.
Mais alors, ils veulent privatiser, mais personne n'achètera, même pas eux.
Non, mais non, la Poste ne sera pas privatisée. Eh, confiance, petit poisson. La Poste va être modernisée. Tu es contre la modernisation, petit poisson.
La Poste va être revalorisée.
Tu n'es pas contre la revalorisation, petit poisson. Tu es contre le gâchis. Tu es contre la gabegie. Tu es contre l'argent fou. Eh bien, la modernisation de la Poste va permettre de réduire les dépenses de l'État. Et confiance, petit poisson. Dents ? Quelles dents ?
Ah, mes dents ! Ah, tu trouves que j'ai de grandes dents ? Oh, mais c'est pour mieux te protéger, petit poisson. C'est pour mieux te servir. C'est moi que tu as élu, petit poisson. Et puis, tu le sais, nous n'avons pas le choix. Face à la concurrence, nous ne pouvons faire autrement que d'ouvrir le capital de la Poste.
Oh, juste un petit peu. Aie confiance, petit poisson. L'État restera majoritaire, bien sûr.
Ah, comme France Télécom, c'était premier juré. Et aujourd'hui, l'État ne détient plus que 27% du capital de France Télécom. Aie confiance, les tarifs n'augmenteront pas.
Ah, comme le péage des autoroutes après leur privatisation.
Ne sois pas aussi méfiant. Petit poisson, aucun emploi ne sera supprimé. À peine va-t-on fermer encore quelques centaines de bureaux de poste dans les campagnes ou dans les quartiers populaires et réduire les horaires d'ouverture. Mais c'est tout. Il faut être rentable, petit poisson. Petit poisson, connais-tu la RGPP? Ça, c'est très important que tu saches ça, petit poisson, RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques. C'est bien, Révision Générale des Politiques Publiques. Surveiller les politiques publiques afin que chaque euro soit dépensé à bon escient. C'est bien, non? Oh, et tu sais à quoi sert la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques? Eh bien, écoute bien, petit poisson, à la mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles. Je te le répète, mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles. Et ça dure, vois-tu, petit poisson, depuis des années, ce et ces scénarios de réformes structurelles. Et pourquoi donc? Eh bien, pour moderniser, pour revaloriser, des efforts constants pour réduire les dépenses de l'État, petit poisson. Voilà, tu n'es toujours pas d'accord? Tu es têtu, petit poisson, tu es archaïque, tu es conservateur. Voilà pourquoi cette heure t'est entièrement consacrée dans la base si j'y suis. À 16h, tu diras merci, requin.
À tout prix, votre ticket pour accéder jusqu'au guichet. Il faut l'arracher de la machine accrochée juste à gauche après l'entrée. Allez vous asseoir avec les autres sur les beaux sièges en plastoc. Sur le ticket, un numéro qui s'affichera sur le panneau. Sur le panneau, il faut fixer, faut pas se rater. Et voilà, ah, c'est comme ça.
Et voilà,
ah, c'est comme ça. De vous déplacer, attrapez le combiné. Veuillez patienter, votre correspondant est occupé. Vous êtes en relation avec le service demandé. Chaque solution va vous être énumérée. On va vous aiguiller pour mieux vous diriger. Veuillez faire votre choix, confirmez-le avec la croix. Tapez 1 pour ceci, tapez 2 pour cela. Donc on est erroné, il n'est pas reconnu. Ton temps est écoulé, tu repars au menu. La ligne est coupée, t'as trop attendu. Tu connais la chanson, il faudra rappeler. Il s'étonne de ton insurrection, de ton envie de destruction, en te laissant dans la confusion. Ces quelques mots et des échantillons. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Encore un tour pour rien dans le rond-point. Et je tourne et j'attends, je désespère, qu'on me tende la main. La 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 la.
Philippe Fouillou, délégué syndical à Sud PTT.
Je pense personnellement qu'il y a une véritable volonté politique de créer, de désorganiser la Poste en tant que telle. Donc l'objectif était d'arriver à organiser ou désorganiser la Poste volontairement, présenter un service qui ne fonctionne pas, de manière à mener le public à justifier ce que ses dirigeants ont déjà préparé il y a plusieurs années. C'est-à-dire l'idée de privatiser la Poste, c'est ça la logique. Sauf qu'on sait très bien dans les pays où ça a été privatisé, ils sont obligés de revenir sur les privatisations parce que ça fonctionne encore moins. Et c'est encore plus cher.
Eh oui, si l'on observe ce qui se passe dans les pays où la Commission européenne a réussi avec ses injonctions à la privatisation de la Poste, en Allemagne par exemple, eh bien le nombre de points de contact va passer en 20 ans de 30 000 à 5 000. En Suède par exemple, eh bien la privatisation a entraîné 25% des effectifs en moins dans les postes suédoises et 70% d'augmentation des tarifs. Et bien évidemment, vous avez compris, c'est simple maintenant, on a compris quand même. Les marchés financiers veulent se faire du fric avec la poste comme avec le reste. C'est simple, c'est clair, c'est direct et on en voit aujourd'hui les résultats à travers le monde. Là, ça devient planétaire. Eh bien, quand même, malgré l'opinion publique qui quand même voit le vent venir, je le rappelle, à 61%, un sondage récent CSA publié dans le quotidien L'Humanité indiquait que vous êtes, en tous les cas les Français, l'opinion française est opposée à cette privatisation, même si on l'a compris, le mot ne doit pas être prononcé. On est avec Philippe Fouillou, de Sud PTT.
Bon, alors, on parle de privatisation de la Poste. Enfin, certains parlent de privatisation de la Poste. On sait que le président de la Poste, Bailly, et le porte-parole du gouvernement, Luc Châtel, disent non, on privatise pas du tout. C'est un truc qui vient de tomber, c'est récent, cette affaire ?
Alors, il faut savoir que la privatisation, en fin de compte, c'est, pour être plus clair, ça serait, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Il faut comprendre que ça fait au moins 15 ou 20 ans que la privatisation est en marche. Dans les bureaux de poste, concrètement, comment ça se passe depuis 15 ou 20 ans? Il a fallu transformer, en fin de compte, l'usager en client, transformer le guichetier en vendeur, introduire aussi la notion de chiffre d'affaires, parce que, bon, la réalité de la privatisation, on l'a bien compris, c'est de présenter quand même aux futurs investisseurs un bilan aussi bien financier, comptable que humain, le plus inquiétable possible.
On essaye de rendre la mariée aussi belle que possible pour que les investisseurs privés la trouvent vraiment, vraiment désirable.
Tout à fait, c'est ça, l'objectif, il est là.
Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples les plus concrets possibles de ce à quoi on peut déceler ces évolutions que vous présentez, que vous dénoncez, quand, par exemple, eh bien, on arrive dans un bureau de poste pour faire une opération ?
Alors, concrètement, je vais prendre le cas d'un bureau de poste qui est parisien, qui se trouve dans le 16e arrondissement, qui est le bureau central de l'arrondissement, qui est un bureau de poste actuellement qui est en rénovation. Et dans l'entrée du bureau de poste, il est prévu de mettre une boutique. Alors, la boutique, ça fait 3-4 ans qu'on nous sort la boutique régulièrement dans tous les bureaux de poste maintenant, puisque c'est la priorité de la poste. C'est cet espace-là qui est prioritaire. Avant, les guichets d'auto-opération. Et donc, dans ce bureau de poste, la configuration est faite de telle manière à ce que, lorsque l'usager rentre, il est pris dans une sorte d'entonnoir par tous les rayonnages de la boutique, hein, qui cache en plus les guichets qui sont juste derrière. C'est-à-dire que l'usager rentrant ne voit pas les guichets toute opération. Il se trouve pris par ces rayonnages qui lui proposent tout un tas de produits, naturellement, à valeur ajoutée et autres services qui n'ont rien à voir avec la poste, comme des cordes à sauter il y a quelque temps, comme des stylos à parfumer, etc. Donc il se retrouve pris dans cet entonnoir-là. Et en plus de ça, il y a un responsable, ce que la poste appelle un responsable client, qui est là en plus de ça pour essayer, naturellement, de le maintenir dans cet entonnoir, pour essayer de le maintenir sur une logique d'achat qui serait celui d'un produit à valeur ajoutée. Il faut savoir que les bureaux de poste ont actuellement ce qu'ils appellent un IGP, c'est un indice général de performance qui est basé sur la capacité à générer des marges bénéficiaires, ce qu'ils appellent, globalement, voilà.
À ces millions de clients quotidiens, la Poste a décidé d'offrir un environnement contemporain qui répond à leurs attentes en matière de services de proximité. C'est la naissance d'une nouvelle génération de bureaux de poste.
Vous savez pas qu'on vendait des trucs comme ça, la poste, c'est quoi ça, des suspensions Pinocchio, c'est des petites marionnettes, quoi, c'est
oui,
ça?
Oui, alors je sais pas trop à quoi ça sert.
Mais... Là, il y a des livres bien cuisinés, Tentation sucrée. Le potage plaisir, des petits crayons, c'est ça?
Des petits DVD, CD, des petits livres. Vous n'avez plus qu'à acheter.
Vous avez même des gilets de sécurité.
Oh si, ça vous intéresse.
C'est quoi le rapport avec la poste? Ah oui, là...
On m'en vend tout, hein. Vous avez bien vu, regardez.
Comment, bonjour?
Oui, je suis bien au partenariat?
Oui.
Bonjour, madame.
Bonjour.
C'est monsieur Lambert, là, pareil.
Oui.
Je vous appelle parce que j'ai une proposition commerciale à faire à la Poste.
Oui.
Vous allez voir, c'est assez enthousiasmant.
Oui.
Il se trouve que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans une poste et ça a pas mal changé. Et j'ai vu que vous aviez maintenant un espace boutique. Qui est vachement bien, avec tout un tas de produits. J'ai même vu des gilets fluorescents et tout, quoi.
Oui.
Et moi, je peux avoir des brosses à dents à très bon marché.
Oui.
Je me disais que ça pourrait être un très bon produit à mettre dans les boutiques de la Poste.
D'accord. D'accord. C'est quand même assez éloigné. Moi, je vous propose d'appeler la direction de l'enseigne, c'est-à-dire la direction des bureaux de poste.
Oui, d'accord.
C'est eux qui pourront se positionner sur ce type de proposition.
Sinon, j'avais une autre idée, mais je vous la soumets comme ça, juste pour discuter. Mais
oui.
des produits frais, style légumes et fruits,
qu'il y ait un espace dans la boutique qui soit produit frais. Comme ça, les gens, parce qu'ils font un peu la queue, quoi, dans les bureaux de poste. Et pendant qu'ils font la queue, ils prennent leur ticket et en même temps, ils vont faire leurs courses, quoi. Un petit peu comme une épicerie, en fait.
Alors là, ça part. Franchement, voyez avec eux. Je pense que c'est pas à l'ordre du jour. Enfin, maintenant, je m'avance peut-être, mais ce genre de produit dans les bureaux de poste, je pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Hein.
Moi, je pense que c'est l'avenir, quoi. Mais bon, je vais les appeler.
Voyez avec eux.
Ok, merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Pourquoi pas ? C'est pas si stupide, les idées de Renaud Lambert. On pourrait aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est une sorte de... On a une supérette, un supermarché, puis au bout, il y a la poste, par exemple. Ou bien alors, c'est un sex shop. On vend des vidéos porno, des sex toys, et puis au bout, hop, on achète des timbres, pourquoi pas. Et tout ça, c'est la poste. Et c'est la commercialisation. Vous savez, il faut faire face à la concurrence. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. C'est la concurrence. C'est obligé, c'est obligatoire. C'est la concurrence. On ne sait pas pourquoi. On dit ouverture à la concurrence, ça veut dire qu'il faut lutter contre la concurrence et on doit lutter contre la concurrence. Ah, il y a quelque chose d'un peu international dans la concurrence. Attention, hein, si la France ne se défend pas, les étrangers vont... Alors, hop, il faut... Ça, c'est une obligation. Et puis, il y a les directives européennes. Ça veut dire on n'y peut rien. Ah, on est désolé, on est bien d'accord avec vous. On aurait bien voulu que ça continue comme ça, la poste, le service public, avec... Il y a les directives européennes. C'est les deux raisons qu'on avance et qui marchent depuis des années. Et on dit, ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, bah dis donc, il y a les directives européennes. Alors là, il faut se plier, les directives européennes. Si on n'est pas d'accord avec l'Europe, vous savez ce qui nous arrive, hein. On est pour Auschwitz. Ah oui, on nous l'avait dit. En mai 2005, souvenez-vous, on nous l'avait dit. Donc c'est quand même des choses assez intimidantes. Donc voilà pour les directives européennes. Et puis il y a la concurrence. Sinon, encore une fois, on est archaïque, populiste, stalinien. Enfin, vous connaissez bien cette chanson. Elle commence un peu à grincer, la chanson. Elle commence un petit peu à grincer. On retrouve Philippe Fouillou de Sud PTT.
Ce qui se passe dans les bureaux de poste, c'est qu'il y a l'épée de Damoclès du chiffre d'affaires qui est présente en permanence là, jusqu'au plus profond des bureaux de poste. Les agents sont soumis à une pression commerciale. Alors ça se traduit dans un bureau de poste lorsqu'un usager se présente pour exemple envoyer une lettre à 55 centimes. La démarche que doit faire le postier au guichet, c'est essayer de lui proposer le produit le plus cher.
Alors par exemple, si j'arrive, moi je dis bonjour madame.
Bonjour madame.
Je voudrais poster cette lettre, elle pèse le poids minimum.
Je voudrais envoyer ce courrier, s'il vous plaît.
Donc a priori ça coûte un timbre, 55 centimes, qu'est-ce qu'on va me répondre?
Alors théoriquement, il va essayer de deviner votre besoin. Est-ce que c'est urgent, est-ce que ce n'est pas urgent?
En lettre 5?
C'est quoi la différence?
Il va essayer de trouver l'élément qui lui permettra de proposer le produit le plus cher.
Je ne sais pas, vous voulez l'envoyer pour qu'elle arrive quand? Demain, en chrono, je ne sais pas.
Bah, qu'elle arrive plutôt...
L'envoyer en lettre normale, 21 euros pour demain.
21 euros?
Oui.
On va proposer le produit premier, qui est le chronopost, qui est quand même coûte 22 ou 21 euros, si mes souvenirs sont à peu près bons. Après, il y a la lettre recommandée qui est à 5 euros, la lettre suivie qui doit être autour de 2 euros.
Parce que juste que la personne, elle compte vraiment sur ce courrier, ça va lui faire très plaisir. Je veux être sûr que ça arrive. Mais bon, entre 55 centimes et 21 euros, je préfère...
Envoyez-la en lettre suivie, alors seulement. Lettre suivie, ça coûte 2,10 euros. Et là, vous avez un petit numéro. Vous pouvez vérifier si elle est bien arrivée.
C'est beaucoup de pertes?
On ne sait jamais, quoi. Je veux dire, le risque zéro, ça n'existe pas.
D'accord.
Mais bon, après...
Moi, je suis pas suspicieux a priori, mais si la poste met au point des trucs suivis, ça veut dire que vous perdez des courriers, non?
C'est normal qu'on ait plein de produits adaptés. Risque zéro, ça n'existe pas, nulle part. Donc après, sur la masse de courriers que la poste transmet, il peut y avoir une perte. Imaginons que ce soit la vôtre, moi, je suis là pour vous expliquer tout ce qui existe.
D'accord.
Après, si vous voulez l'envoyer comme ça, il n'y a aucun problème. Ça arrivera bien, je pense.
Les chiffres même de la poste nous disent qu'une lettre ordinaire, en général, arrive à 85% à J+1, c'est-à-dire J+1 le lendemain. Mais là, on est dans du domaine où on n'est plus dans le service public, on est vraiment dans le domaine commercial parce qu'il faut vendre le produit.
Mais voilà, après, on a plein de produits, quoi.
Ah, d'accord.
Il y a des moments où il faut être assuré quelque part. Bon, si vous voulez vraiment le savoir, ça, c'est un bon compromis.
Donc il faut commencer par une démarche qui est la désinformation pour arriver à ce qu'on veut, à ce que veut la poste, c'est-à-dire refourguer le produit qui rapporte.
Chronopost, c'est remis demain.
Bon, là, je vais prendre ça.
Christian Cozard, ancien directeur général délégué de La Poste.
Alors maintenant, les postiers. Ben, les postiers, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours vendu des choses. Ils ont bien sûr vendu des timbres. ils ont vendu des choses. Donc, pour le postier, il n'y a pas antinomie, il n'y a pas difficulté entre les services marchands et le service public. Il y a complémentarité.
Vous avez compris ce qu'il dit, Christian Cozard? Le facteur, vous croyez que c'est le gars qui arrive avec sa musette de facteur et puis dedans il y a des lettres? Non, il vend des tas d'autres choses. Et ça fait un bout de temps que cette commercialisation donc des produits de la Poste est en route. Et vous le savez bien puisque un certain nombre d'entre vous fréquentent ces bureaux de poste. On est très très loin du facteur qui passe de maison en maison et des timbres qu'on va en vélo acheter à la Poste.
Alors, il y a le classique carnet de timbres. Là aussi, c'est pareil. L'objectif n'est pas de vendre un carnet de timbres à l'usager qui en a besoin. C'est essayer de lui vendre une enveloppe timbrée. Qui, bien entendu, là-dessus, la Poste gagne encore de l'argent. Alors, si c'est qu'une enveloppe timbrée, c'est pas encore suffisant. Il faut essayer de lui vendre le paquet de 10 enveloppes.
C'est quel poids, votre lettre?
Je ne sais pas. C'est courrier ordinaire.
Voilà, c'est ça qu'on nous prend.
Lettre suivie.
Et là, ça coûte 2,10 €.
D'accord.
Lettre 20 grammes.
Voilà. Moi, je pense que je vais prendre être normal. Hein.
Ah bah, c'est comme vous voulez, mais on les vend par 10.
Il n'y a plus de timbre?
Ah bah si, autrement, on a fait faire la queue.
Ah ouais, d'accord.
Ah ouais.
Et si on essaye de batailler, comment ça se passe?
Ah bah, la logique, c'est qu'effectivement, on va vous proposer d'aller au guichet si vous voulez absolument avoir un timbre. Et au guichet, vous rencontrerez inévitablement maintenant une file d'attente. Parce qu'il faut savoir que les bureaux de poste de Paris sont rénovés avec juste 2 guichets d'ouvert. Sur des bureaux de poste où autrefois ils étaient 4 ou 5 positions de travail. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ceux qui veulent vraiment avoir une opération spécifique qui ne rentre pas dans le cadre commercial de la Poste, ils vont faire la file d'attente.
Prenez un carnet de timbre, ça sert toujours les carnets de timbre, ça vous passez directement à la boutique.
Je n'utilise plus trop, moi.
Attends, oui. Ça se garde tout le temps. Je veux dire, d'ailleurs, vous écrivez, tout ça, vous mettez un timbre.
Ah oui, un carnet.
Vous voyez ce que je veux dire?
Comme ça, je n'ai pas besoin de parler à la clé.
Bah, ça me paraît logique, et puis vous passez directement là, c'est plus rapide. Ouais. Après, c'est à vous de voir.
Encore.
Ça, moi, je dis ça, hein. Bah, bien sûr, attendez. Okay. En plus, on a des jolies. Hein. De sortir.
Et des tout simples, tout rouges, vous n'avez pas?
Des tout simples, tout rouges. Eh bien non, à la boutique, j'ai pas, moi.
Ah bon, d'accord. Moi, je vais prendre ça, ouais. Merci.
À l'intérieur même du timbre en tant que tel, essayez de lui vendre ce qu'on appelle les timbres philatéliques, c'est-à-dire des timbres qui ne sont pas rouges que tout le monde connaît habituellement, mais lui vendre un timbre philatélique avec une caractéristique particulière, parce que dessus, il y a aussi un moyen pour la boîte de gratter du fric.
Autrement à propos, vous avez un livret A?
Non.
Vous n'avez pas de livret A?
Non.
Oh, c'est le moment de faire l'ouverture. Alexandra, ce monsieur n'a pas de livret A. Oh, terrible, monsieur.
Alors là... Mais
vous êtes... ouais, j'ai l'impression que je suis vraiment archaïque.
Vous êtes client de la Banque Postale, déjà, ou pas?
Non. Mais par contre, s'il y a des petits gâteaux comme ça, je vais revenir. Hein.
Oui, comme quoi, on a bien fait de parler. Hein. Bah ouais, c'est vrai, que trop
long. On va d'abord faire ça, et après, je vais vous prendre en main.
Il n'y avait pas de recommandé. Hein,
bon, non. Très bien.
Christian Cozard, ancien directeur général délégué de la Poste.
Nous sommes fiers de servir toutes les populations, donc nos clients, nos usagers aussi, pourquoi pas, on a le service public aussi. Le mot usager n'a rien de choquant. Eh bien, on a défini un autre concept, c'est les gens. Les gens qui viennent à la Poste. Voilà. Nos clients, nos usagers, les Français, les étrangers, les riches, les moins riches, les gens. Voilà notre clientèle.
Quand on aide la confiance à se développer, elle se transmet à tous. Et c'est toute la société qui avance. C'est pour cela que la Poste change, pour faire grandir la confiance. La Poste et la confiance grandit.
Lorsqu'une personne se présente pour un changement d'adresse, le guichetier a consigne d'essayer de vendre par tous les moyens le pack MNA, ma nouvelle adresse, qui comporte toute une carrière d'options. Sachant, il faut quand même le savoir, qu'il existe toujours l'ordre d'expédition classique. La différence entre les deux est quand même de 10 euros, à savoir que le pack MNA coûte 32 euros et le pack ordinaire 22.
J'aurais besoin d'un formulaire pour changement d'adresse, pour un suivi de courrier.
C'est un pack qui dure 6 mois.
Ma nouvelle adresse.
Voilà, c'est ça.
Et
il faut le déposer 32.
Il n'y a pas un truc moins cher, aux alentours de 20 euros?
Il y a le changement d'adresse normal.
Ouais, c'est ça, je vais prendre ça. Ouais.
Ouais, mais il faut le faire tout de suite. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez l'acheter aujourd'hui, faire signer votre conjoint.
Ouais, non, je vais faire 10 euros de différence, c'est quand même pas mal.
Après, c'est vous qui jugez. Hein. Mais la différence, c'est que vous avez là-dedans les enveloppes toutes prêtes. Je peux vous l'ouvrir, mais enfin bon, c'est marqué.
Non.
Les 5 cartes et tous les documents à faire. Donc, vous n'oubliez rien. Donc,
vous privilégiez celui-là, en fait.
Effectivement, maintenant, il faut privilégier ça. Enfin, bah, c'est-à-dire qu'après, c'est vous qui voyez. Hein,
non, mais je prends d'autres. Hein? Je vais prendre un peu moins cher.
Attends, je sais pas si on en a encore, j'ai demandé à ma collègue.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre expédition ordinaire à 22 euros se trouve actuellement non pas à la disposition des guichetiers, ils peuvent même pas, quasiment pas le proposer puisqu'ils ne l'ont pas sous la main. Ils sont obligés de se déplacer soit dans le bureau du chef d'établissement, soit dans le bureau d'un cadre quelconque. Et lorsqu'ils se déplacent pour aller chercher ce document, ils sont obligés d'expliquer et de justifier pourquoi ils n'ont pas réussi à vendre le pack à 32 euros, le fameux pack MNA.
Voilà. Alors là, je vous explique. Donc là, et il faudra le déposer, c'est marqué 5 jours avant.
Il y a même des bureaux où ce formulaire n'est plus disponible. On va vous demander de le télécharger sur Internet.
On m'a dit qu'il y avait un truc à 20 euros.
22 euros. Sur Internet, ça, uniquement.
Ah, sur Internet?
Ouais, hein. Vous pouvez le faire sur Internet. Parce que là, mais vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas le kit complet.
Ouais, enfin bon, je ne cache pas, comme tout le monde, le pouvoir d'achat, c'est un problème en ce moment.
Vous pouvez le faire sur Internet.
Ouais,
si vous avez Internet, vous pouvez le faire.
Vous n'avez pas le formulaire ici?
Ah non.
Non, vous le faites directement sur Internet.
Ah d'accord.
Me voilà sur le site de laposte.fr et je cherche mon formulaire. Je me rends de l'espace réservé aux particuliers. À part une page, où il est proposé en assez gros, découvrez cette semaine les services en ligne de réexpédition et de garde. Je clique. Voici que s'ouvre une page avec, pour unique proposition, le pack ma nouvelle adresse. Coût 32 euros. Je reviens donc en arrière pour essayer de trouver l'autre option, l'option à 22 euros. Et je ne trouve rien. Je reviens donc sur mes pas, je clique, on me propose à nouveau le pack, ma nouvelle adresse, je regarde de plus près et je vois qu'il est possible d'accéder à un site dédié à la réexpédition du courrier. Je clique. S'ouvre une nouvelle fenêtre, intitulée « Réexpédition et garde du courrier pour les particuliers ». Une proposition est formulée, pack, ma nouvelle adresse, 32 euros. Je reviens en arrière, je clique sur « Outils pratiques », aucune information. Je reviens en une, je clique sur « Envoyer ou recevez du courrier », toutes les offres. Envoi courant, envoi sécurisé, service de réexpédition et de garde du courrier, déménagement, pack, ma nouvelle adresse. Je reviens en arrière. Aucune autre possibilité. Je reviens en une. On me propose un nouveau lien. Je clique. Aucune information. Je clique sur outils pratiques. Je clique sur envoyer ou recevez du courrier. Je reviens en une. Envoi courant. Toutes les offres. Service de réexpédition et de garde du courrier. Envoi sécurisé. S'ouvre une nouvelle page. Pack ma nouvelle adresse. Coût 32 euros.
Mais après tout, le guichetier n'est pas tenu de faire ce qu'on lui dit. Qu'est-ce qui se passe s'il ne respecte pas les objectifs ou y a des moyens de coercition?
Alors là, la solution qu'a trouvé la Poste, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le visiteur mystère. À savoir que le visiteur mystère, c'est une personne de la Poste, un postier, alors en général des cadres, qui se présente comme étant un usager ordinaire et qui demande un service tout à fait ordinaire. Et ce qui les intéresse à ces visiteurs mystères, c'est voir comment est déclinée donc la méthode commerciale, si elle est bien déclinée, et si au bout du compte, l'agent, le guichetier qui tient sa position de travail, a bien fait son travail en termes de vendeur.
Bonjour, je voudrais poster une lettre, s'il vous plaît.
Oui. Voilà. En courrier ordinaire?
Ouais.
55.
Vous ne proposez pas d'autres tarifs?
Ben non, je vous ai demandé courrier ordinaire, vous m'avez dit oui.
Et si j'étais visiteur mystère, vous seriez embêté ou pas?
Oui, c'est vrai. Oui, mais oui, c'est vrai.
Normalement, vous devez proposer aussi un chronopost. Ben,
soit le chronopost, soit le suivi, soit le recommandé. C'est vrai.
Mais vous feriez taper sur les doigts?
Très. Vous êtes un visiteur mystère?
Ouais.
C'est vrai?
Ouais.
Vous voulez que je vous cherche un responsable?
J'aimerais bien, ouais.
Suite à cela, donc, le visiteur mystère ne s'arrête pas là. Il demande immédiatement d'avoir le chef d'établissement pour, effectivement, avoir un entretien individualisé avec l'agent.
Bonjour, madame.
Oui, visiteur mystère.
Bon, voilà, je demande simplement un affranchissement. Il me semblait que c'était clair que maintenant, on devait proposer d'autres services, comme on se casse un peu la tête pour les mettre au point. Voilà, on n'a pas parlé de chronopost ou quoi que ce soit. Donc, je voulais savoir si c'est arrivé jusqu'ici ou non, quoi.
J'ai juste demandé si c'était un envoi ordinaire et c'est vrai que comme il m'a dit oui, j'ai juste collé un terme. Quoi.
Vous connaissez le principe quand même?
Ah oui, bon ça, oui.
On n'est pas de la première visiteur.
C'est pas parce que c'est la fête qu'on ne respecte pas les consignes, quoi.
Ils ne sont jamais satisfaits, bien entendu, parce qu'il faut continuer, même toujours s'améliorer. L'optique n'est pas de faire d'être un professionnel, l'optique est de vendre. On ne demande pas à un agent aujourd'hui d'avoir une connaissance professionnelle de son outil de travail en tant que tel, c'est-à-dire connaître la réglementation en termes de courrier, la réglementation de services financiers. On lui demande avant tout de vendre.
Pas employé,
j'annule ou pas la vignette?
Non, mais vous embêtez pas, madame. En fait, je suis pas du tout visiteur mystère, mais je vais prendre.
Vous êtes
je suis journaliste. Je voulais vérifier que ça existait bien, un visiteur mystère.
Ouais, oui. Non, vous savez.
Mais ça
vous aviez l'air assez livide quand même.
Bah oui, parce que en général, on se fait disputer. Disputer. On a des consignes, effectivement.
Bah, vous inquiétez pas, je suis désolé d'avoir fait une petite frayeur.
Ça, c'est quoi. Pas gentil.
Bah, bonne journée.
Au revoir.
Vu à la poste, donc, cette scène. Par contre, la suivante, peu de chance que vous l'y voyez. Tout, tout, tout. Bonjour madame, je voudrais poster cette lettre, s'il vous plaît.
Bonjour monsieur, oui, donc un chronopost, ça vous fera 21 €, monsieur.
Attention madame, je suis visiteur mystère. Souvenez-vous que votre mission est une mission de service public. Pourquoi donc me proposer un service à 21 € lorsque vous savez pertinemment que vous pourriez me proposer un timbre à 55 centimes ?
Oh, oui, je suis désolée, j'oublie toujours. Merci visiteur mystère.
Tout, tout, tout.
Cette logique commerciale, elle amène naturellement à toutes les dérives possibles imaginables.
Philippe Fouillou, délégué syndical à Sud PTT.
Là, encore récemment, nous sommes intervenus au niveau de la direction de Paris, parce que dans un bureau de poste, il faut savoir qu'il y a deux types de colissimo. Il y a le colissimo ordinaire et le colissimo recommandé. Et bien, chaque établissement, pour essayer de faire du chiffre d'affaires, avait tout simplement retiré des guichets l'alias colis ordinaire et leur disait, voilà, ça vous dit aux clients, aux usagers, que ça n'existe plus, qu'il faut insister sur le colissimo recommandé.
C'est de la vente forcée, ça.
C'est vraiment la vente forcée. On est obligé d'intervenir au niveau de la direction de Paris pour que ces pratiques cessent. Bon, mais on en arrive à ce genre de dérive régulièrement. Et une anecdote m'est arrivée il y a quelques années de ça, où un collègue d'un bureau de poste m'avait appelé en disant, voilà, on a un souci local. Il m'a expliqué le contexte. Ce bureau de poste, sur son tableau de marche, je dirais, était largement en retard par rapport à certains d'autres bureaux de poste, et qu'ils avaient un challenge sur un produit spécifique, était l'enveloppe à 250 grammes, chronopost, à l'étranger. Et il y a un agent qui était parti dans une dérive, à savoir qu'un usager s'était présenté pour envoyer une thèse à l'étranger, et cet agent avait proposé de lui diviser en 4 la thèse, parce qu'elle faisait 1 kg, pour lui permettre donc de mettre ces 4 morceaux de thèse dans des enveloppes qui correspondaient à un poids de 250 grammes.
Alors qu'elle aurait pu le faire dans la même...
Alors qu'il aurait pu le faire dans un produit chronopost, mais qui n'était pas, à l'époque, ne faisait pas partie du challenge.
Votre histoire de chronopost à 250 grammes, qui sont les seuls qu'on souhaite vendre, et donc d'une thèse qu'on va adapter au produit qu'on souhaite vendre, ça fait un peu penser à l'histoire du tailleur de Fernand Reynaud, qui va voir son tailleur, qui lui a fait un costume qui lui tombe pas bien dessus. En fait, le tailleur va déformer Fernand Reynaud pour qu'il soit adapté au costume. Finalement, c'est à l'usager de s'adapter à ce qu'on souhaite lui vendre.
C'est ce que désire la Poste. Hein. La Poste ne veut pas servir, n'est plus dans une logique de servir l'individu, mais elle veut surtout que l'individu s'adapte à ce que veut lui proposer, lui vendre la Poste. On n'est plus du tout dans la même logique. C'est transformer véritablement, structurellement parlant, la Poste en termes de logique de service public, en logique purement marchand, dans lequel effectivement c'est l'usager qui doit se plier aux desiderata de la boîte.
Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre vous met en émoi. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde s'agite avec joie. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Tiens, voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. L'été quand il fait beau, il vous dit il fait chaud. Mais quand tombe la pluie, il vous dit ça pleut aujourd'hui. Hein. Tiens, voilà le facteur. À cheval sur son vélo, à côté quand ça monte trop. Tiens, voilà le facteur. Et pour les plis très urgents, en courant, il prend son temps. Quand il roule rapidement, ce n'est pas pour un urgent, mais c'est tout simplement parce qu'il est poussé par le vent. Voilà le facteur. Quand il roule un peu penché, c'est qu'il porte une lettre chargée. Sacré facteur. Thank you. Et lorsque vous restez quelques jours sans courrier, chez vous quand même il vient pour vous dire aujourd'hui y'a rien. Well, Vecteur, venez boire à ma santé, vous l'avez bien mérité. Merci bien, Vecteur, et à demain.
Être au pont le 24 septembre 2008. À monsieur le directeur de la Poste. Monsieur, alors qu'hier le journal de 20h nous montrait des images de la manifestation contre la privatisation du capital de la Poste, une réforme bien plus sournoise et bien plus silencieuse frappe nos campagnes. La fermeture des bureaux de poste dans nos villages.
Être au pont le 4 juillet 2008. Je sous-signais monsieur Cavignac-Claude en tant que commerçant et citoyen de la commune d'Étréaupont. Je n'accepte pas vos décisions pour la fermeture de la poste l'après-midi.
Alors, monsieur le maire, nous sommes naturellement d'accord pour vous apporter notre soutien dans votre démarche contre la fermeture de votre bureau de poste les après-midi.
Je suis notaire à la résidence d'Étréaupont depuis près de 25 ans et je m'associe naturellement à la demande de l'ensemble des habitants d'Étréaupont pour le maintien actuel des plages horaires du bureau de poste.
Nous sommes en tant que commerçants totalement opposés à cette fermeture.
Vous ne pensez pas du tout aux personnes âgées, les personnes sans voiture et aux conséquences que ça peut faire.
La Poste avait toujours jusqu'à présent une image de service public. Quand va-t-on cesser de penser trop court et de regarder uniquement le critère de productivité immédiate?
Cette décision me paraît inacceptable pour le village et les commerçants.
Cette réduction d'amplitude horaire ne pourra que conduire à un ralentissement de notre activité commerciale dont nous n'avons pas besoin dans notre tirage actuel. Déjà bien touché dans le manque de services publics et surtout d'activités commerciales.
Notre postier est un interlocuteur de choix. Que restera-t-il de ses compétences dans un point poste?
C'est pour cela que je soutiendrai... Ah oui, la commune, excusez-le. Pour le maintien de l'ouverture de la poste toute la journée.
Laissez-nous vivre dans nos campagnes. Oui. Ne touchez pas à notre poste.
Signé Jean-Claude Tourné, Alimentation Générale à Étréaupont.
Je vous prie d'agréer, monsieur, mes sincères salutations.
En espérant que ce courrier vous aidera à aboutir, veuillez agréer, monsieur le maire, nos sincères salutations.
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations, monsieur boucher, charcutier, traiteur.
La population est solidaire de l'action entreprise par le conseil municipal d'Étréaupont et décidée à mener des actions vigoureuses à l'encontre de ces propositions. Veuillez agréer, monsieur le maire, chers collègues, l'expression de mes sentiments distingués. C'est le maire d'Autrèpe, monsieur Paul Basse.
Voilà. Autrèpe, une commune à côté. Hein.
Une commune à côté, oui, à quelques kilomètres.
Là, on est petite ville, bourgade, du Thiérache, dans l'Aisne, et Étréaupont, donc, s'est mobilisé. Alors, c'est tout le monde qui s'est mobilisé, depuis l'épicier, en passant par le pharmacien, en passant par tout le monde, le marchand de vin, pour dire non à la fermeture du bureau de poste d'Étréaupont, y compris Étienne Taquet, licencié en droit, notaire, successeur de maître de camp.
Maître Taquet, vous êtes notaire à Étréaupont. En fait, ce qu'on s'aperçoit quand on fait le tour d'un petit village comme Étréaupont, il y a un petit peu plus de 900 habitants, c'est que la Poste, loin d'être un commerce comme les autres, c'est un peu la clé de voûte qui permet la vie de toutes les personnes qui y travaillent et qui résident à Étréaupont.
Tout à fait, c'est un peu le lieu central, effectivement, de l'activité économique du village. Et c'est vrai que c'est la Poste, outre sa fonction, effectivement, de transmission du courrier, est un service auprès de la population. Et si c'est une suppression de ce service qui aurait lieu au détriment et au mépris des personnes les plus défavorisées, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, les personnes âgées ou les personnes à faible niveau de vie.
Pourquoi est-ce que ça serait plus particulièrement problématique pour les personnes qui ont un faible niveau de vie?
Je pense qu'ensuite, ils seront obligés, pour toutes leurs démarches administratives et postales, notamment, d'aller vers d'autres communes. Donc, sans moyens de locomotion, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a aussi la collecte des fonds par la Poste, qui est la banque, hein,
la banque postale, comme on l'appelle maintenant. Elle s'appelle La Banque, donc elle doit maintenir un service de proximité.
Alors ici on s'est bagarré, enfin on se bagarre à Étréaupont pour défendre nos bureaux de poste. Hein.
Ah bah oui, on s'est déjà bagarré plus d'une fois. Hein. C'est déjà combien, la deux, troisième fois. Hein. C'est essayer de les faire céder, mais vous croyez qu'ils vont demander notre avis?
De toute façon, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Quand on en reparle, c'est déjà fait.
Bon. Ben, on va essayer de se battre jusqu'au bout. Il faut continuer à se battre. Autrement, si on laisse faire... Il y aura, comme on dit, il n'y aura plus rien.
Monsieur le maire, comment on s'est organisé ici à Étréaupont pour mener la bataille?
Alors, en premier lieu, donc, j'ai été contacté par les dirigeants de la Poste qui m'ont fait cette proposition de fermeture l'après-midi. Et de ce fait-là, donc, nous en avons parlé en conseil municipal. Donc, nous avons voté une délibération qui nous s'opposant fermement à ce projet. Ensuite, on a contacté donc, les commerçants et les artisans du village qui se sont opposés fermement. Et la population s'est mobilisée parce qu'il y a une pétition qui a circulé dans le village. Et on a récolté plus de 500 à 600 signatures.
Sur 940 habitants.
Voilà. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les gens étaient très attachés à leur bureau de poste et aux services qu'ils apportaient. Le fait de privatiser, c'est vrai que c'est rentré dans le monde du capitalisme. Et c'est vrai qu'on en oublie, là, le service rendu à la population. On en oublie aussi les hommes. Et ça, c'est bien dommage.
Alors là, on est en pays de tirage, c'est ça, un pays où on a l'habitude de se battre. Les églises sont fortifiées, on a résisté à l'envahisseur. Et c'est aussi une lutte pour l'identité, quoi. C'est tout à l'heure, il y a un monsieur qui me disait, on nous a tout retiré ici. C'est un peu le dernier rempart. On ne veut pas qu'on touche à notre bureau de poste. On veut pas disparaître, quoi.
Voilà. Alors c'est vrai que je dirais en combat l'envahisseur. On est dans une région où il y a eu beaucoup de passages d'invasion antérieurement. Et c'est vrai qu'on a peut-être encore la fibre de défense, la fibre de défendre nos intérêts justement. Et le combat au sujet de la poste est un de nos combats.
On va fortifier la poste contre les financiers.
Bientôt, oui.
Oui. C'est parce que tout le monde est de gauche ici qu'on veut défendre les services publics ou...
Soit de gauche ou de droite. Un service public, c'est un service public. Je sais pas, il n'y a pas de politique à rentrer dans la poste, je sais pas.
C'est bien. Alors, il faut que notre postale reste. Hein. En toute confiance, je vous fais confiance. Hein. Oh ben, je regarde le ciel en même temps.
C'est pas moi qui vais décider, madame.
Non, je sais, mais enfin, ça serait dommage. Normalement, ça doit marcher.
Je vais aller faire écouter ce que vous m'avez dit à monsieur Bailly, le patron de la poste.
D'accord. Enlevez pour moi la poste, c'est enlever ma vie.
On va lui faire entendre ça.
Eh bien, c'est très gentil, monsieur. Très gentil. Allez, au plaisir.
C'est tout ça.
Voilà, c'était un reportage de Renaud Lambert d'octobre 2008, une des émissions que nous avons consacrées à La Poste et au risque de privatisation de La Poste. Merci à tous, merci à Philippe Fouillou, à Valérie, à Sylvie, ainsi qu'à Yves Battrel. Et merci aux habitants d'Étréaupont. Et puis pendant que j'y suis, je remercie aussi nos amis d'Amien qui nous ont reçus samedi après-midi pour les 10 ans de Fakir. 10 ans de Fakir, le journal dirigé par François Ruffin. Et là, il y avait toute sa bande, il y avait l'association, il y avait la musique. Là, c'était absolument délicieux. Et puis Fakir, eh ben, vous le savez, est en vente, le numéro de ce mois d'octobre est en vente partout, à ne pas manquer sous aucun prétexte. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Alain Arnstam, Coyen Guyenne et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Catherine Pinto attend vos messages sur le répondeur de la Bassigis ou au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Je vous rappelle qu'on prépare une série d'émissions sur France Télécom et on attend toujours vos témoignages. On a déjà pas mal de demandes ou de propositions de témoignages. Je vous rappelle le numéro de la Bassigis, 01 56 40 37 37. Je viens de le dire, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique
émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. Là-bas.org réclame.